Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que ça a été compliqué pour Strasbourg, mais au niveau mental, parce qu'on a été en rouleau tout le match, quoi.
On a eu un moment difficile, mais ce moment difficile, il a duré pendant 90 minutes.
J'essaie de faire mon mieux, d'apporter pire le déficit, et donc je suis content.
RMC, l'after foot.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After Foot. On sera évidemment en France avec l'épilogue de ce championnat demain, 34e journée. On vivra ce multiplex avec des enseignements. Qu'est-ce qui serait mieux pour le foot français? Lille, Lyon ou Rennes en Ligue des Champions? On va en parler. On parlera également de Thomasson qui a choisi de quitter justement un club qualifié en Ligue des Champions Lens pour aller à Rennes qui ne sait pas encore quelle Coupe d'Europe il jouera. On sera en Angleterre également avec le choix de Xabi Alonso. Il va être l'entraîneur de Chelsea. C'est une information RMC Sport. On parlera évidemment également de la Cup remportée par City. Et puis en Espagne avec Edgar Grollo. Il se passe toujours des choses en Espagne. Ils sont là en pleine forme. Walid Acharchour et Maxime Chano. Bonsoir messieurs.
Salut Walid, salut Karine, salut à tous.
Salut Maxime, salut Karine, salut tout le monde.
Tout va bien?
Tout va bien, très bien, merci. Ouais.
On va parler de cette 34e journée. Ça y est, demain, la Ligue 1 sera terminée pour les 15 premiers clubs, on le rappelle parce qu'il y aura encore des échéances pour le barragiste 16e. On va s'intéresser, nous, à la Coupe d'Europe, messieurs, parce que c'est extrêmement serré et il y a évidemment des enjeux. On vous rappelle que pour l'instant, c'est Lille qui est 3e, Lyon qui est 4e et Rennes 5e. Le PSG Lens, c'est acté. Et on se pose cette question, qu'est-ce qui serait le mieux pour le foot français? On rappelle qu'en Ligue des Champions, le PSG évidemment brille, mais on a besoin de clubs forts. Je vous rappelle rapidement que Lyon, la dernière fois qu'ils ont joué la Ligue des Champions, c'était lors de la saison 2019-2020. C'était avec Rudy Garcia, 8e de finale face au Bayern Munich. Lille, la saison passée, on s'en souvient. Non, c'était 8e de finale en saison 2019-2020. Ah, je oui. Prends la dernière fois où ils ont joué.
D'accord, c'est pas le Final 8 où ils se font sortir en demi 3-0, où ils sortent la Juve et City? J'ai peut-être un doute, j'ai un peu à vérifier, mais.
Je sais pas, j'ai repris les informations que j'ai retrouvées dans un mail. Je vais pas donner l'identité du mail si c'est une erreur.
Pas balance, mais.
Mais pour moi, la dernière fois où ils ont joué la Ligue des Champions, c'était saison 2019-2020. Je vais vérifier pendant que vous analyserez évidemment ces trois clubs. Lille, c'était la saison passée avec un top 8. Et après le 8e de finale éliminé par Dortmund. Et puis Rennes, on le rappelle, c'est qu'une seule fois qu'ils ont joué la Ligue des Champions. Ils avaient fini 4e du groupe lors de la saison 2020-2021. Les affiches rapidement parce que c'est important aussi. Du côté de Lyon, on recevra Lens. Lens qui est évidemment sûr d'être deuxième. Du côté de Rennes, on se déplacera à Marseille. Donc ça, c'est quand même un match aussi très compliqué. Et du côté de Lille, on sera opposé à
Auxerre
qui joue évidemment son maintien en Ligue 1. Messieurs, par rapport au foot français, pour vous, Lille, Lyon, Rennes, ça serait quoi le mieux pour l'intérêt du foot français?
Moi, écoute, je vais commencer. Moi, j'ai envie de dire Lyon. Alors pourquoi? Déjà parce que je serais très heureux de revoir Lyon en Coupe d'Europe. On sait un petit peu l'historique de ce club. Et puis, je pense aussi que pour avoir une Ligue 1 forte, il faudrait que justement Lyon puisse se requalifier en Ligue des Champions. Je vais évidemment pas parler de leur parcours européen, toutes ces grandes années. Moi, c'est un peu cette équipe qui m'a fait aimer le ballon. Hein. Juninho, Cassapa, Chris, notamment. C'est vrai que je me rappelle un peu plus jeune. Regardez les parcours européens de l'Olympique Lyonnais avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour pour le ballon. Après, au-delà de tout ça, je pense que quand tu regardes un petit peu le club, c'est un club qui revient vraiment de loin pour la storytelling, sachant qu'on le rappelle, mais Lyon avait un pied et demi en Ligue 2, voire même deux pieds, on va dire, en début de saison. Quand tu regardes un petit peu la saison qu'ils ont vécue, notamment ces 13 victoires d'affilée, moi je suis très très heureux, en tout cas, de les voir à ce niveau-là. J'aimerais vraiment qu'ils puissent se qualifier. Et puis, je le répète, pour la beauté de la Ligue 1, c'est vrai que le Paris Saint-Germain se sent un peu seul quand même, même si l'Olympique de Marseille, j'aurais préféré que l'Olympique de Marseille arrive à les suivre. Maintenant, aujourd'hui,
Marseille, ça fait longtemps qu'il ne brille pas en Ligue des Champions.
À défaut d'avoir un Olympique qui est proche du Paris Saint-Germain, ça sera au moins l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'est un club que j'estime beaucoup. Je pense qu'ils ont digéré un petit peu le nouveau stade aussi. C'est vrai que ça leur a fait un coup de moins bien et un coup d'arrêt par rapport à l'impact financier qu'il a eu le Groupama Stadium. Et puis derrière, tu as aussi un centre de formation qui fonctionne bien. Je pense qu'il y a un projet qui est sur le moyen terme avec l'Olympique Lyonnais. On le sait. Et donc c'est vrai que si jamais il devait arriver à se qualifier en Ligue des Champions, je pense que ça serait vraiment un coup de génie entre guillemets de la part
de toute façon Karine, t'as dressé un petit peu le contexte juste avant avec les derniers.
Je te confirme, a priori, les informations que j'ai sous les yeux, c'est le dernier match de Ligue des Champions, 8e de finale à Lisbonne, c'était face au Bayern Munich.
Mais c'est pas un 8e, c'est une demi. C'est une demi, c'est le 3-0 avec le poteau de Toko et Kambi.
Oui, il y a écrit demi-finale.
Ah oui, d'accord, ça, oui, ça s'en va.
Tu as raison. Oui, écoute, il y a écrit demi-finale.
On va vous montrer le 8e face au Bayern Munich. Sincèrement, en Final 8, ils avaient sorti la Juve de Sarri et puis derrière, ils avaient sorti le City de Guardiola.
Tu peux pas la faire,
Ouais. Non, mais moi, je suis
avec Rudy Garcia.
Avec Rudy Garcia.
Magnifique.
Ils avaient fait une saison très, très moyenne en Ligue 1 parce qu'ils avaient terminé 7e. Il y avait eu l'histoire du Covid cette année-là avec Jean-Michel Aulas qui voulait arrêter le championnat. Ça avait fait polémique. Mais pour revenir sur ton constat, qui est globalement, bah, vrai, hormis ça, c'est que on voit que Lille et Lyon finalement ont cet ADN européen qui pourrait nous convenir l'année prochaine, et surtout même en Ligue des Champions, parce que Lille, si on se souvient bien de ce qu'ils ont fait avec Genesio sur le top 8, c'était déjà une performance extraordinaire, même s'ils nous avaient déçus contre Dortmund, mais faire top 8, personne ne l'avait imaginé, et surtout pas moi. Et derrière, il y avait eu aussi un huitième de finale sous Gourvennec, il me semble, où ils avaient réussi à terminer premier dans une poule Wolfsburg, Salzbourg et Séville.
Ouais, et derrière Chelsea, et voilà, ils n'étaient pas vers rien.
Voilà, ils avaient perdu contre Chelsea, ils s'étaient fait sortir par Chelsea. Et de l'autre côté, Lyon, moi je l'ai toujours dit, mais quand ils sont en Ligue Europa ou même en Ligue des Champions, il y a souvent des belles soirées, ils sont souvent au rendez-vous. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, que ce soit Lille ou Lyon, je pense qu'ils ont montré cette mentalité, ils arrivent à se sublimer sur ce type de soirée-là. Et donc, bien évidemment, comme l'a dit Maxime, pour Lyon, c'est primordial. On a vraiment le sentiment que c'est primordial d'aller en Ligue des Champions financièrement, parce que ça peut donner véritablement un gros, gros coup de boost après tout ce qu'a fait Textor sur les dernières années, pour repartir sur une vraie sérénité où on est vraiment essayer d'assainir les finances. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit Lille ou Lyon, moi je pense quand même que ça peut être une bonne chose pour la Ligue 1.
On va écouter Bruno Genesio, parce que ce sont les grands gagnants du week-end dernier. On rappelle qu'ils ont doublé pour l'instant les Lyonnais. C'est eux qui sont troisième du championnat. On écoute l'entraîneur lillois.
Jusqu'à maintenant, je suis plutôt satisfait du comportement de mes joueurs et de mon équipe. Cette semaine, c'est bien passé aussi. Maintenant, c'est une finale. Pour nous, comme pour Auxerre, qui est une des meilleures équipes en termes de points pris sur les derniers matchs, on sait que ce sera comme d'habitude un match difficile, mais on a notre destin entre nos mains ou nos pieds, vas-y, c'est l'un ou l'autre. On est chez nous avec notre public, qui sera très très nombreux. Voilà, à nous de prendre ce match avec le même sérieux, la même application qu'on a eu ces derniers temps.
L'importance est différente. Lille, évidemment, veut jouer la Ligue des Champions, donc être troisième assuré. Auxerre joue sa vie. Et dans le même temps, t'as quand même Lyon-Lens où tu te dis Lens va faire tourner en vue de cette finale de Coupe de France.
Comme prévu, comme ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que si Lens avait sécurisé cette deuxième place, je pense qu'à une semaine de la finale, la priorité, et on le voit notamment avec le groupe constitué de Franquet, je crois que Sangaré n'est pas là, notamment devant aussi il manque quelqu'un. Donc oui, et Lyon a une vraie opportunité.
Je pense que Lyon a un plus grand avantage par exemple que Lille et Rennes.
Moi, pour moi, Lille va gagner.
Ouais.
Mais après, pour moi, le défi sportif est plus relevé pour Lille que pour Lyon. Pour
mais évidemment, parce que Auxerre joue leur cours en Ligue 1,
parce que véritablement, ils vont jouer, leur survie. Et puis Auxerre, si on regarde bien dans la dynamique, ça perd très peu.
Ouais.
Ça fait beaucoup de nuls, mais ils ont été faire nuls à Monaco.
Ouais, surtout à l'extérieur, exactement.
À l'extérieur, ça ne gagne pas, mais
ils sont
capables en transition avec les Sinayoko, avec les Namasso, de te faire mal. Et Lille vient de faire 0-0 contre Le Havre, bloc bas. Un partout contre Le Havre, bloc bas. Ils ont fait 0-0 contre Nice, aussi bloc bas à la maison. Donc ça va être un match intéressant, mais je vois quand même Lille favo. Lille à 90 minutes pour aller en Ligue des Champions directement, c'est une opportunité qui est dingue. Et si on leur avait dit en début de saison qu'ils se retrouveraient dans cette situation, je pense que Genesio aurait signé des demain
avec
les stylos du monde.
Ils peuvent dire d'ailleurs merci à Lyon, hein, qui ont flanché la semaine dernière à l'extérieur.
Ils peuvent dire merci aussi à Marseille qui a fait des moments catastrophiques.
À Monaco,
mais ils sont là et ils ont fait surtout, ils ont été chercher ces points très importants dans les confrontations directes. Et ils ont été battre Monaco la semaine dernière, ils ont été battre Lens à la maison,
Marseille là-bas,
Rennes là-bas, avec beaucoup de personnalité, avec un changement tactique de la part de Genesio, Fernandez Pardo en neuf, mettre Moukao sur le côté façon Matuidi 2018. Voilà, il y a eu une vraie recherche, il y a une vraie dynamique qui s'est construite de la part de Lille, et ce serait mérité qu'ils soient troisième au vu des deux derniers mois. Mais
surtout quand tu regardes un petit peu leur début de saison, enfin leur début d'année, hein, janvier, février, ou est-ce que je suis cette troisième place. Mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu le contexte actuel, je pense qu'on peut mettre Rennes quasiment dehors de la course, hein, parce que ça ferait beaucoup de conditions. Il faudrait que Lyon perde, que Lille perde.
Oui, en plus, Rennes, ils peuvent tout perdre aussi, selon ce qui se passe.
Je pense que Rennes. Tu peux être quoi, sixième?
Ouais, mais en tout cas, pour cette qualif en Ligue des Champions, je pense que Rennes, ça risque d'être très compliqué.
En Ligue Europa, conférence, potentiellement, ou en barrage, parce qu'après, tout dépend de ce qui se passe entre Lens et Nice. C'est quand même décevant.
En tout cas, en ce qui concerne le match de Lille, moi, je vois quand même Lille gagner, en effet, contre des valeureux Auxerrois, parce qu'ils jouent leur peau en Ligue 1, tu l'as bien dit. Après,
il y aura quand même le barrage, quoi.
Après, il y aura le barrage, bien sûr. Et pour revenir à Lyon et Lens, ouais, on risque de voir
Lens,
justement.
Non, Tu veux parler du match entre Lyon et Lens.
Tout ça pour te dire que je pense que Lens va faire tourner une semaine de la finale de Coupe de France, donc ça va donner forcément un avantage supplémentaire à Lyon. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est une course excitante.
Mais pour revenir sur ton débat, Rennes, pour le coup, moi j'ai des gros doutes sur ce que le débat initial, c'est quand même qui vous voulez en Ligue des Champions pour la santé de la Ligue 1. Et moi, Rennes, j'ai quand même des gros doutes en Ligue des Champions.
Mais c'est une seule participation.
Voilà, sur le projet, il n'y a pas assez de récurrence. Et puis même Francaise, qui est un entraîneur moi que j'affectionne, un bilan qui est pas dingue en Europe avec Nice et avec Lens, même s'il a gagné contre Arsenal et qu'ils avaient fait troisième, mais l'assemblage Rennes et Francaise où il sort de deux saisons d'Europa League catastrophiques avec Nice, avec des blessures, etc. Mais même lui, il s'était trompé sur certaines compos. Moi, je préfère quand même avoir Lille ou Lyon, avoir Lille ou Lyon l'année prochaine.
D'autant que c'est très très important, tu l'as dit, d'un point de vue financier pour Lyon comme pour Lille, hein, qui a souffert avec ses finances ces dernières années. Après, ça va aussi leur permettre de pouvoir garder des joueurs. Et je pense notamment à Lille, un joueur comme Fernandes Pardo, même Boadi. C'est vrai que c'est différent quand tu te qualifies en Ligue des Champions. En règle générale, tu as tendance à vouloir rester dans ton club. Bon, c'est pas forcément le cas de tout le monde. On parlera de Thomasson un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est primordial pour ces deux clubs, en tout cas, de pouvoir se qualifier en Ligue des Champions, d'un point de vue financier, mais aussi pour pouvoir garder et attirer des nouveaux joueurs.
Et puis Lille, l'étant, a toujours montré qu'il avait des équipes compétitives avec des entraîneurs compétitifs dans ce type de rendez-vous.
Et l'an dernier, c'était un sacré coup. On rappelle un top 8 pour Lille. Donc, ils n'avaient pas joué les barrages et ils avaient notamment battu le Real et l'Atlético. Bon, on se souvient des scénarios de ces matchs, mais en tout cas, il l'avait fait sous Genesio. Yaya, supporter du LOSC, qui est avec nous au 32-16 sur RMC. Bonsoir Yaya.
Salut Yaya.
Bonsoir à tous.
Salut Yaya.
Yaya, c'est vrai qu'en plus, avec cette nouvelle formule qui a été lancée l'an passé, on peut plus facilement peut-être faire des performances, parce qu'on rappelle que par le passé, par exemple, si tu avais des grosses équipes dans ton groupe, vu que tu les jouais deux fois, c'était quasiment très compliqué de faire un résultat, alors que là tu n'as que des adversaires différents.
Ben oui, tout à fait, c'est pratiquement un match de Coupe de France où c'est une finale à chaque fois, quoi, en fait. Donc on donne tout, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait tout son charme, et c'est ce qui fait que on a eu pas mal de surprises de part et d'autre, parce que justement on donne tout sur un seul match, on ne calcule pas du coup.
Yaya, le fait que a priori, alors ça peut toujours changer, mais que Bruno Genesio s'en aille, donc qu'on reparte avec nouvel entraîneur pour potentiellement jouer la Ligue des Champions, c'est quelque chose qui t'inquiète ou tu te dis non, quand Genesio il a repris la suite, ça s'est bien passé l'an passé?
Moi ça me fait pas peur, parce que je pense que là pour le moment, moi-même j'étais pas fan de Genesio, je l'avoue, parce que quand il a on a eu notre fameux trou noir et qu'il fallait justement faire jouer certains jeunes n'ont pas pu jouer parce qu'il avait gardé pratiquement son 11 qui était assez fatigué psychologiquement, ça m'a vraiment agacé. Mais c'est vrai que j'avoue que là, pour ce qui est de la série qu'on fait actuellement, à savoir les 13 matchs sans défaite, depuis qu'on a récupéré nos cadres, quand on a une équipe pratiquement au complet, Genesio, c'est très très fort en termes de tactique.
Ça tourne
là,
bien.
Je l'avoue.
Ça tourne bien. Et Walid l'a très justement dit. Je pense que la grande différence, en fait, le tournant du LOSC cette saison, c'est quand il a repositionné Fernandes Pardo. Il l'avait essayé plusieurs fois durant la saison. Ça n'avait pas vraiment fonctionné, mais c'est vrai que ça a donné énormément de verticalité à cette équipe qui en avait bien besoin.
De mouvement aussi dans les 25 derniers mètres où ça a bougé beaucoup plus.
Après, il y a le retour de Ben Taleb qui a été aussi intéressant et qui a fait énormément de bien à cette équipe. Et c'est vrai que quand tu regardes la dynamique dans laquelle ils sont actuellement, honnêtement, ils sont pas volés. C'est pas volé d'être à cette troisième place. Ils le méritent.
Et puis la réalité, c'est que contrairement à Marseille, même si c'est un contexte très très différent. On sait que ça a tangué en janvier-février. Il y a eu notamment ce match contre Strasbourg où toute la semaine Fabrice Hawkins avait dit que Genesio avait proposé sa démission et qu'elle avait
même
été
refusée. Soir du Celta Vigo.
Même au soir du Celta Vigo où véritablement c'était très très compliqué entre les deux. Qu'après le match contre Strasbourg, il s'était fait complètement démonter en transition où à chaque ballon dans le dos c'était popcorn pour Strasbourg. À la fin du match, on s'attendait. Moi, je me rappelle, j'avais fait le débrief. On s'attendait 4-4, ils en prennent 4. On s'attendait à un Létang qui dit stop, on s'arrête, etc. La même chose pour Genesio, ils ont fait corps.
Corps,
les deux ont montré de la solidarité. Ils ont voulu bien finir. Je me rappelle d'un autre moment aussi important, 0-0 contre Metz là-bas, un vendredi, horrible, match horrible. Je crois que c'est peut-être fin février. Là, tu te dis en fait, mais je crois qu'ils sont à 11 points ou 12 points de la troisième place à ce moment-là. Je crois qu'il y a une question de l'animateur de Ligue 1 Plus qui dit à Genesio, bon, est-ce qu'il y a une prolongation, est-ce que tu vois que Genesio il en peut plus et que c'est terminé à la fin de saison quoi qu'il arrive. Et derrière les voir se relancer de cette manière avec cette double confrontation là, Rennes et derrière Marseille où ils font 6 sur 6 pour prendre relance au derby et faire 9 sur 9 entre les deux trêves internationales, ça les a relancés. Et derrière il y a eu en plus des clubs qui ont totalement chuté, Monaco et Marseille. Donc bravo à eux. C'est un peu l'équipe qui a, dans un championnat où il y a eu du nivellement vers le bas sur cette deuxième partie de saison, qui s'en sort le mieux, quoi. Ouais. Qui a su rester indemne dans des crises parce que.
Et notamment aussi par rapport à Olivier Létang. Tu l'as dit, oui. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup le critiquer. C'est quand même un personnage assez parfois sulfuré, notamment avec les arbitres. Mais c'est vrai que tu l'as dit, quand il y a eu cette crise justement sportive. En tout cas, quand il y a eu cette crise sportive, il y a une symbiose entre lui et Genesio. En tout cas, il a essayé d'aller dans le même sens, même si peut-être qu'en interne c'était différent. Ça, on ne sait pas vraiment. Mais c'est
en
vrai
tout cas,
que
quand publiquement, il y a eu une symbiose.
C'est un peu comme voilà, on lave son linge sale en famille. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Genesio et Olivier Létang. Et c'est vrai que quand tu compares avec ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille, c'est peut-être aussi la situation et la raison qui veut qu'aujourd'hui Lille est troisième et que l'Olympique de Marseille se retrouve dans
cette situation. Même si encore une fois, je le répète, mais je pense que Genesio, s'il fait ces deux mois-là à Marseille, il saute.
Voilà, oui. mais c'est le contexte actuel, avec les dirigeants lillois qui sont intelligents.
Parce qu'il n'y avait pas en plus non plus de suite à Genesio. Voilà, il s'est retrouvé dépourvu.
Exactement.
Quand Genesio lui dit je me barre, c'est la guerre, il n'avait pas non plus le remplaçant.
Non, je sais, mais peut-être que si Olivier Létang avait réagi un peu à la façon de Mehdi Benatia, ou en tout cas certains dirigeants français, Lille ne serait pas aujourd'hui troisième. Comme quoi, la stabilité, le calme dans la tempête, c'est finalement ce qui est le plus important en sport de haut niveau.
Merci Yaya d'avoir été avec nous. On accueille Nassim, supporter lyonnais qui demain sera présent au Groupama Stadium. Salut Nassim.
Bonsoir à tous.
Nassim, ça y est, est-ce que tu as évacué, digéré ce qui s'est passé le week-end dernier sur la pelouse de Toulouse?
Non, moi j'attends de voir demain. Faut qu'il se rattrape. Faut qu'il se rattrape parce que nous, on avait les cartes en main pour finir troisième. Ils nous ont déçus la semaine dernière. Pareil, le coaching, pour moi, il a pas été génial. Le point positif, c'est que tout le monde a quelque chose à jouer demain, que ce soit Lille, que ce soit Rennes avec Marseille. Et Lens se présente avec des joueurs qui vont être focus sur la Coupe de France, avec quelques absents. Donc j'espère que ça jouera en notre faveur. Comme l'année dernière, je crois qu'on était sur la dernière journée, à un quart d'heure de la fin, on était huitième. Et je crois qu'on a pris deux places en 15 minutes sur le classement. Donc j'espère que ça va se finir comme ça. Et puis voilà, écoute, de toute façon, il y a tout pour. Il y a l'ambiance ces temps-ci. On a Morton qui est blessé, Kubadji, et le reste, normalement, tout le monde devrait être là. J'espère que jusqu'au Fonseca va pas faire... va faire ce qu'il faut, va pas jouer défensif. Voilà, il va y aller à fond parce que des fois il a trop tendance.
C'est le Fonseca qui la joue défensif, hormis au Paris Saint-Germain, dans un contexte circonstanciel. Il joue défensif quand, Fonseca?
Ah bah tous les fins de match sur les
démarrer. C'est, moi j'ai vu il y a deux semaines un match contre Rennes où pendant 90 minutes c'était l'équipe protagoniste qui envoyait du jeu.
Parce que le match fait que t'es à 4-2, voilà. Mais tous les matchs où c'était un peu tendu, à chaque fois il est passé à 5 derrière.
Moi c'est des choses que je veux pas voir demain. Tu parles des lectures de match, mais moi j'ai la certitude que Fonseca et Lyon vont gagner la rencontre demain contre Lens. Pour moi l'équation c'est est-ce que Lille gagne contre Auxerre.
De toute façon il est dans une situation où Lyon doit absolument gagner, donc en effet Fonseca va y aller de manière offensive. En plus, c'est un petit peu dans son ADN aussi. On sait, alors c'est assez paradoxal parce que Fonseca, c'est vrai que historiquement parlant, c'est quand même pas le meilleur dans les dernières lignes droites avec ses clubs respectifs. Mais là, avec Lyon, bon, à part le match contre Toulouse où ils se sont complètement loupés, hein, c'est vrai qu'ils peuvent s'en mordre les doigts, surtout contre des Toulousains qui avaient absolument plus rien à jouer. Mais ouais, je vois aussi Lyon gagner demain sans trop de problèmes, d'autant plus qu'encore une fois, je pense que Lens va faire tourner l'équipe en prévision de la finale de la Coupe de
France.
Et puis
si Lyon fait quatrième, ce sera quand même une saison exceptionnelle.
Oui, Nassim, t'auras quand même le sourire à la fin du match. Tu peux me dire non.
Oui. En fait, c'est comme tous les Lyonnais, en fait. Vous m'auriez dit ça le 1er août l'année dernière. Évidemment que c'était inenvisageable. Mais quand, avec ce qui s'est passé, l'espoir qu'ils nous ont donné la semaine dernière, on est un club qui doit jouer le top 3 tout le temps, c'est notre ADN, même si c'est un peu compliqué. Mais voilà, nous, en tant que Lyonnais.
Si on t'avait dit ça il y a deux semaines avant le match du PSG, t'aurais signé?
Oui, j'aurais signé.
Oui. Ah oui, mais c'est pour ça qu'en fait, bien évidemment qu'on peut se faire des séquences dans la saison où l'Olympique Lyonnais était mieux que ça ou était moins bien que ça.
Moins bien que ça.
La réalité, c'est que ce soir, t'as encore une balle pour aller chercher une troisième place et que la quatrième place va dire ça à Monaco ou à Marseille. Je pense qu'ils seraient très très contents d'être à ta place demain soir.
D'accord.
Après, surtout avec les moyens financiers dépensés.
Mais c'est pour ça que cette troisième place, elle nous permettait de voir les choses, tu vois, avec un peu plus de tranquillité à la saison prochaine. La troisième, la quatrième, la cinquième, ça va pas du tout être pareil.
Oui, mais de toute façon, ta saison, en fait, c'est à prendre ou à laisser avec Arthur, quoi. Tu termines avec les deux dernières boîtes, là, t'as 500 000 ou tu termines avec 50 000. Oui, si tu termines avec 50 000, t'es un peu déçu.
T'as un peu
les boules, mais quand même.
Mais
quand tu commences quand tu commences le jeu, tu sais pas que tu vas avoir 500 000 dans la dernière boîte. C'est ça la réalité. C'est que, mais le problème, c'est que t'as pas la proposition du chacal, quoi. T'as pas le chacal qui t'appelle là demain pour te dire bon, allez, la troisième place, on la prend. Mais tu seras quand même heureux, comme l'a dit Karine tout à l'heure. Tu seras quand même heureux, je pense, demain soir ou même lundi ou mardi. Hein.
Merci.
Oui. Juste une félicitation pour le club de la capitale algérienne qui ont gagné.
Ah oui, l'USMA, oui.
Exactement.
Contre les Égyptiens.
Exactement, du Zamalek, qui est une très grosse équipe.
Au tir au but. Bravo à eux. C'est la fête à Alger, là.
Yes.
Merci Nassim d'avoir été avec nous. Bon match demain.
Merci.
Messieurs, je vous propose d'écouter aussi un homme, Valentin Rongier. Il sera évidemment important demain. Le Marseillais qui est passé du côté de Rennes. Il a été interrogé sur la rencontre demain au Vélodrome. Il a mis une petite pression sur le dos des Marseillais. On l'écoute.
La pression, elle est sur eux. On est devant et on a toutes les qualités pour faire un gros match. On s'est super bien préparé cette semaine. L'atmosphère, comme vous l'avez dit, je la connais parfaitement. Mais vous savez, le Vélodrome, il peut tourner dans les deux sens en très très peu de temps. Donc ce sera à nous d'essayer de maintenir ce climat annoncé où les supporters ne veulent pas trop soutenir, de ce que j'ai cru comprendre, l'OM pour le dernier match. Mais voilà, nous on y va sans calculer tout ça vraiment. On va là-bas pour faire un gros match simplement et prendre énormément de plaisir.
Bon, a priori, l'idée, c'est quand même que les supporters marseillais encouragent leur équipe pour ce dernier match. Une victoire, ça serait une cinquième place, donc ils passeraient devant Rennes, et ça serait donc Ligue Europa direct. Il y a quand même un paramètre très important, messieurs, c'est, on rappelle, Samba est suspendu, donc c'est Silistri qui est dans les cages, seulement deux matchs en pro. Ça peut jouer, ça, quand même, demain, le joueur qui découvre un match au Vélodrome dans une ambiance très particulière.
Oui, évidemment que ça peut jouer, hein, quand c'est tes premiers matchs, que tu joues dans un contexte comme le Vélodrome. Maintenant, à voir si le Vélodrome va soutenir l'Olympique de Marseille, hein, tu l'as dit très justement, hein, vu la saison.
Oui, mais a priori, ça devrait être plutôt positif.
Okay.
C'est les échos qu'on a.
Ok, basé sur quoi alors? Sur leur victoire contre l'OM. Enfin, c'est à voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, j'ai été dans ce contexte où, en effet, je me suis retrouvé à jouer mes premiers matchs contre dans des gros stades. C'est toujours un petit peu impressionnant. Maintenant, bon, écoute, ça va lui permettre d'apprendre. Moi, je trouve quand même la situation un petit peu cocasse, hein. Et c'est quand même assez paradoxal de se retrouver dans cette situation-là face à un Habib Bey qui quand même a connu les deux clubs, hein, pour ceux qui l'ont oublié.
Franquès était très classe en conférence de presse.
Oui. Il a dit qu'il faudrait rappeler que s'il y a une cinquième place, enfin, quoi qu'il se passe. Ouais. Le classement final, il est aussi dû à Habib Bey qui a fait une partie du boulot.
Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que Francaise a fait le meilleur boulot que Habib Bey, non?
Oui. Enfin, mais après, il dit que s'il a fait quatrième, c'est parce qu'il a récupéré un club à la sixième place. C'est classe de sa part de le dire publiquement.
Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que c'est drôle de se retrouver dans cette situation-là, dans un contexte forcément un petit peu spécial pour Habib Bey. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que si Rennes devait terminer devant l'Olympique de Marseille, ce qui est en tout cas le cas, si Rennes devait gagner ce match-là, ça serait quand même assez assez compliqué pour Habib Bey par rapport à son constat, par rapport à sa saison qui fut quand même assez mouvementée, que ce soit du côté de Rennes ou du côté de l'Olympique de Marseille.
Walid, 20 ans, 2 matchs en pro, ça change la donne complètement pour le gardien de but Sidistri.
Bien sûr, surtout qu'en plus il avait joué contre Lens et ça avait été catastrophique. On se rappelle, hein, c'était le choix d'Habib Bey de sortir Samba après le match contre l'Olympique de Marseille et ça avait été un choix perdant où il avait été vraiment fautif sur pas mal de buts. À voir comment il va se reprendre de ce match-là, parce que aller à Bollard et aller au Vélodrome,
c'est pas les deux matchs, c'est le feu.
Voilà, c'est pas les deux matchs les plus simples pour un jeune joueur, pour un jeune gardien. Mais oui, ce sera bien évidemment une équation importante, même si pour moi, je trouve que Rennes, dans la dynamique, et pourtant c'est pas une dynamique de dingue, hein, il faut pas mentir aux gens, ce qu'on voit de Rennes, même le match contre le PFC, le match contre Angers, le match contre Nantes, c'est pas dingue. Mais ils font les points. Mais même en étant pas dingue, pour moi, il y a beaucoup plus de certitude qu'à l'Olympique de Marseille. Pour moi, le match de l'OM contre le Havre, la barre de Bouffal, t'as un penalty, franchement, qui tombe du ciel là sur un coup franc avec la main, pas la main. J'ai pas trouvé une équipe de l'OM au-dessus du Havre, et je vois pas comment en fait faudra montrer le match pour voir une équipe de l'OM qui dans le jeu met en difficulté cette équipe de Rennes qui est beaucoup plus sereine, qui est beaucoup, donc pour moi Rennes arrive avec le plus de certitude footballistiquement. Hein. Après un match c'est un match bien évidemment, mais moi je suis pas rassuré parce que je vois de l'Olympique de Marseille et Rennes est le grand favori de ce match-là pour moi.
On rappelle que demain ça sera donc le multiplex de la 34e journée de Ligue 1 avec des enjeux sur beaucoup de pelouses. Dans quelques instants on va parler du choix de Thomasson. Il a décidé de quitter Lens qui va jouer la Ligue des Champions et il va s'engager avec le Stade Rennais. Est-ce que vous comprenez le choix de ce joueur? On en parle avec vous au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h21 en direct du studio Roland Courbis avec Walid Acherchou et Maxime Chano. On est ensemble jusqu'à minuit pour l'afterfoot. Messieurs, demain, vous le savez, c'est la 34e journée, la dernière journée de ce championnat, l'épilogue. Et puis il y aura après les barrages, le 16e de Ligue 1 qui sera opposé à Saint-Etienne sur 2 matchs. Mais on voulait parler d'un homme, c'est Thomasson. Évidemment, il a le droit, il fait ses choix. Mais on a appris qu'il allait quitter le RC Lens. Ligue des Champions, c'est acté pour le RC Lens et il prend la direction de Rennes. Rennes qui jouera la Ligue Europa Conférence, c'est à voir évidemment. Est-ce que vous comprenez le choix du joueur? On rappelle qu'il a 32 ans, qu'il va s'engager pour 2 ans avec une année supplémentaire et qu'il a joué la Ligue des Champions qu'une seule fois. C'était lorsqu'il avait rejoint le RC Lens en janvier 2023. Il avait joué donc quelques matchs, 5 en tout. Est-ce que vous êtes déçu ou est-ce que c'est entre guillemets le dernier gros contrat de sa carrière peut-être et donc
déçu. Moi, je suis pas déçu. Maintenant, je m'attendais à un autre choix. Je suis surpris de le voir à Rennes. Je suis pas déçu le mot, surpris. Surpris parce que capitaine de Lens, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire cette saison. Pour moi, c'est le joueur le plus régulier de son équipe. Il a été important, ça a été le poumon de Lens, capitaine, l'ADN. Et que ça se termine comme ça, bien évidemment que c'est triste. Je pense aux supporters lensois qui auraient aimé le voir en Ligue des Champions l'année prochaine. J'en fais partie. Maintenant, il y a des considérations financières qu'on doit respecter. Si Lens, de son côté, ne veut pas refaire les mêmes erreurs que poste deuxième place avec Francaise, en ne pourront pas donner le salaire qu'il faut et que mériterait Thomasson par rapport à ses performances
sportives. On parle de x2 entre Lens et Rennes.
Et donc là, à un moment donné, si ça se rejoint pas et que Thomasson se dit, moi, je dois quand même me mettre à l'abri avec un dernier gros contrat et que si j'ai un contrat plus juteux, j'y vais, c'est compréhensible. Mais maintenant, moi, j'aurais imaginé le voir en MLS. En fait, moi là, j'ai un petit...
Il cherchait à y aller.
Ah ouais. Moi, là où je suis un peu triste, c'est que, tu vois, terminer l'histoire en Ligue 1, à Lens et partir en MLS, il l'avait souvent dit, il voulait, il kiffe ce football, il kiffe cette région, ce pays. Là, aller à Rennes, en plus, il a un passé nantais comme Rongier. Tiens, au passage, il retrouvera Rongier qu'il avait connu à Nantes avec Ranieri et
Samba, Frankowski.
Exactement, voilà. Mais donc, il y a un effectif. Ouais. Pour le coup, c'est un super choix pour Rennes, hein. Super. Mais tu vois, j'aurais imaginé peut-être au PFC en France.
Ouais, d'ailleurs, ils en parlaient aussi à la base. Hein.
C'est encore pire.
Pourquoi c'est encore pire?
Le PFC,
par exemple, au PFC, demain, le PFC donne un gros contrat à Thomasson, un peu comme ce qu'il voulait donner à André l'année dernière. Avoir un vrai joueur Ligue 1 référencé, repulé. de Ligue 1, etc. Pour avoir un nouveau projet. Tu vois, mais aller à Rennes par rapport à son histoire à Nantes. Après, moi, je suis pas là pour juger. Je décrypte, hein, juste le choix. Après, tu me diras peut-être que Rennes sera en Ligue des Champions demain soir. Et ce sera un super choix. Il a joué aussi avec Rennes. Mais moi, globalement, surpris.
Et puis, ça lui permet aussi, justement, de retrouver, comme tu l'as dit, ses copains. C'est-à-dire Rongier, qu'il a connu à Nantes, mais aussi Brice Samba, Frankowski, qu'il a joué à Rennes. Et puis, même presque Seko Fofana, on sait jamais, hein, comment ça va se passer. En tout cas, il est encore sous contrat. Donc,
et il retrouve Francaise aussi.
Mais surtout Francaise. Enfin, c'est vrai que quand tu regardes un petit peu avec Valentin Rongier, Madi Camara et potentiellement Thomasson, ouais, ça va être un milieu de terrain de marathonien. Non, moi, je trouve que c'est. Alors, une bonne chose, je pense que tu l'as très justement dit, Walid. La réalité, c'est qu'il quitte parce qu'il y a une histoire financière. C'est son dernier gros contrat. Il a 32 ans. Et dans le football, on sait très bien que tout est très, très rapide. Moi, je trouve qu'il part avec le devoir accompli, entre guillemets. Il a fait une saison exceptionnelle. Ouais, il a 10 passes décisives. Et je pense qu'il a été le leader de cette équipe lensoise, honnêtement.
Il a jamais triché.
Il a jamais triché. Il a 13 km par match face à un joueur qui est super important pour le Racing Club de Lens, mais qui sera aussi super important, justement, pour le Stade Rennais. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Alors, en effet, est-ce que j'aurais voulu le voir en Ligue des Champions? Oui. Parce que je pense que c'est vraiment la pierre angulaire. Alors, en plus de ça, s'il y a le départ de Sangaré, ça risque d'être très, très compliqué pour le Racing Club de Lens de se remettre un petit peu de son départ. Maintenant, c'est une suite logique.
Parce il avait joué la Ligue des Champions avec Lens, hein, parce que c'est lui qui
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il a fait l'erreur sur le premier but d'Arsenal, je crois que derrière il se rattrape en marquant ce but-là. Non, mais évidemment, je pense que comme tout supporter de la Ligue 1, on est déçu de le voir partir de Lens. Après, encore une fois, il y a une réalité financière et quand Lens peut pas, parce que Lens a fait une proposition, hein, il me semble, à Thomasson, quand Lens peut pas s'ajuster, en tout cas s'aligner avec une proposition qui fait x2, je pense qu'il faut aussi reconnaître et accepter le fait que le joueur de foot joue aussi pour l'argent. Et donc, s'il a cette opportunité de pouvoir rester en Ligue 1, d'aller jouer avec ses copains, de retrouver son ancien entraîneur, pourquoi pas de jouer de Coupe d'Europe en doublant son salaire, je pense que l'équation est très vite réalisée.
Et du côté de Lens, moi je pose la question de Pierre Sage l'an prochain, depuis peu là.
Où tout le monde se barre, quoi.
Non mais là Lens, l'été de Lens, ça va être intéressant quand même.
Ah ben là, excuse-moi, mais vu la tête que tu fais, tu m'inquiètes grandement.
Ah non, parce que non, ma langue sort, fin de contrat, elle va partir.
Oui, on a vu son message.
Voilà. Saïd, voilà, ça on le savait.
Thomasson, c'est cuit.
Sangaré, c'est la grosse valeur marchande à sortir.
Moi, ça me déprime, tu vois. C'est-à-dire que Lens fait tout bien et tu es dans un flou absolu. Donc, qu'est-ce que tu peux faire de mieux?
Non, mais c'est pas ça que je dis. Mais je dis que moi, du côté de Pierre Sage, je vais aller en Ligue des Champions. Si je vais en Ligue des Champions avec un sandwich et avec un sandwich fromage, il y a un moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va falloir être armé dans le frigo quand même.
Hein. Ouais.
S'il reste un vieux pot de yaourt dans le frigo et avec tout le respect que j'ai pour l'effectif,
ça me déprime, tu vois.
Non, mais il va falloir aller faire les courses quand même.
C'est d'une tristesse.
Tu sais que c'est la suite logique, hein, entre guillemets, d'un club comme Lens qui se qualifie en Ligue des Champions, tu perds tes meilleurs joueurs. Il y en a eu beaucoup. Je pense notamment, par exemple, à Montpellier à l'époque, quand Montpellier finit champion de France, derrière Ligue des Champions, tu perds Olivier Giroud, tu perds tes meilleurs joueurs, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Maintenant, si tu arrives à sortir Sangaré avec une grosse offre et que tu arrives à récupérer un peu d'argent et que tu réinvestis bien, comme ils ont fait avec Thauvin ou Hudson-Edouard, on a confiance, je pense, en Jean-Louis Léca qui fait super travail. Moi, je suis pas trop inquiet par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en effet, il va devoir avoir un gros travail de fait cet été pour pouvoir avoir une équipe compétitive en Ligue des Champions.
On accueille Mohamed, supporter lensois, avec nous au 32-16 sur RMC. Mohamed, c'est vrai que là, Walid nous a rappelé quelques tendances. Tu te sens comment? Parce que franchement, vous avez tout fait bien cette année, vous êtes deuxième de Ligue 1, vous avez peut-être gagné la première Coupe de France de votre histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Et pourtant, il y a un très très gros point d'interrogation par rapport à l'effectif.
Oui, déjà, bonsoir à toutes et à tous.
Salut.
Et oui, effectivement, tout ce que vous dites est assez juste, mais en même temps, n'est pas surprenant. On parle d'un club français en Ligue 1, donc avec très peu d'argent, et on ne découvre pas que dès qu'un club, a fortiori le 10e budget de Ligue 1, fait une grosse saison, au bout de 1, 2, 3 mercato, il finit par perdre tous ses joueurs et il faut recommencer, reconstruire. C'est un peu une sorte de cercle vicieux et Lens n'est pas le seul épargné. Je crois que c'est le cas de 90% des clubs français et encore plus gentil.
Mais quand tu joues la Ligue des Champions, c'est parfois un argument pour essayer de garder des joueurs. Par exemple, Brest, même si c'est pas les mêmes budgets, etc., mais Brest est arrivé à quand même garder certains joueurs pour jouer la Ligue des Champions. La Lens, franchement, ils ont tout fait bien. Ils se sont déjà remis de problèmes financiers parce que ça avait été mal géré avec Arnaud Pouille et on annonce un été encore avec beaucoup de chamboulements.
C'est vrai, mais à partir du moment où vous avez de fait trois joueurs qui sont des titulaires, qui arrivent à la fin de leur contrat qui ont en plus des émoluments ailleurs qui sont intéressants. On ne va pas faire les mêmes bêtises que celles qui ont été faites il y a 3 ans.
Ça, c'est une réalité, ça, de toute façon. Ça, c'est une réalité. Ça, de toute façon, Jean-Louis Leca et Gourlian ont cette ligne directrice l'an prochain. Il n'y aura pas de folie, loin de là.
Et il y aura très certainement au moins une grosse vente.
Et oui, voilà. Et pour le coup, on ne peut pas leur en vouloir, parce que c'est comme ça, c'est le jeu, c'est les règles.
Voilà, ils ont appris quand même du passé. On ne va pas rappeler les. Au-delà même des 35 millions sur Wai, mais c'est toutes les augmentations de salaire sur Samba, Abdoul Samed, Medina. Voilà, ça a donné ce que ça a donné après avec la saison avec Will Steele et toute la braderie qui a été faite sur pas mal de titulaires. Voilà, on apprend de nos erreurs et peut-être que justement, pour reprendre ton exemple, Karine, on va peut-être pouvoir s'inspirer justement de Brest, c'est-à-dire ne pas cramer la caisse, c'est-à-dire ne pas prolonger des joueurs qui ont la trentaine ou plus comme Thomasson, que j'aime beaucoup au demeurant, pour rebâtir, reconstruire et puis bon, on va recommencer comme avant.
Et toi, en tant que supporter, tu serais pas déçu justement que le Racing Club de Lens n'utilise pas cet argent de la Ligue des Champions pour essayer de recruter ou alors en tout cas de prolonger certains joueurs, parce que tu prends l'exemple de Brest, mais je sais qu'il y a eu la fronde un petit peu des supporters justement qui comprenaient pas pourquoi Lorenzi avait pas réinvesti cet argent. Et c'est vrai que le fait de pas avoir réinvesti cet argent, ben derrière Brest est retombé un petit peu dans l'anonymat. Donc est-ce que tu as pas peur par rapport à ça de faire uniquement figuration en Ligue des Champions pour derrière retrouver une place un peu d'anonyme en Ligue 1 si tu devais pas renouveler tes cadres?
Pour reprendre ton exemple de Brest, si on est complètement honnête, donc ils font troisième. L'année suivante, ils font la Ligue des Champions. Ils font une Ligue des Champions honnête,
très bonne.
Barrage, par exemple.
Très honnête.
Et ils font 9e de Ligue 1, ce qui était loin d'être un résultat attendu. Et l'année suivante, qui était un peu la saison de tous les dangers, au final, ils se maintiennent assez sereinement. Alors, bien sûr, Lens n'en est pas là. Lens se vise quand même plus haut. Mais moi, je ne m'attends pas à ce que l'année prochaine, on rejoue le top 3. J'espère qu'on finisse, on va dire, entre 6 et 8.
T'as raison, c'est un discours raisonnable. Discours raisonnable.
Et c'est ce qui s'était passé la dernière fois que vous avez joué la Ligue des Champions, d'ailleurs. C'est que derrière, vous n'aviez pas enchaîné une deuxième saison de suite. Vous étiez revenu dans des standards plus classiques.
Mais c'est pour ça que, pour moi, c'est deux débats très différents. Le club et le coach. C'est-à-dire que...
C'est vrai.
Le club et le coach, les supporters, le club et les coachs. Moi, si je dois me placer du côté de Lens, une saison l'an prochain, 7e, 8e, et tu fais ton petit kiff en Ligue des Champions, ou allez, tu vas chercher le top 6, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui en Ligue 1, vu l'irrégularité des poursuivants du Paris Saint-Germain, il y a de quoi se frayer un chemin en étant très très cohérent, et en étant un club bien calme et bien stable. Mais le problème, c'est surtout le coach. C'est le coach vient de faire 2e, et il va peut-être gagner la Coupe de France. Et si le coach, lui, il doit penser à son futur, il doit penser à sa carrière. Il y a des gens qui pensent à sa carrière pour lui aussi. C'est-à-dire que si l'année prochaine il se viande totalement, il fait 11e avec une équipe qui, c'est pas grave pour Lens, mais par contre pour lui, est-ce qu'il a véritablement à gagner, à aller, à continuer avec Lens en Ligue des Champions avec un frigo qui se vide? C'est pour ça que c'est deux débats en fait totalement pour moi différents.
C'est pour ça qu'il faudra...
Le même débat qu'on a eu avec Thomas il y a 10 minutes. Ouais.
Je pense qu'il aura des garanties quand même. Bon, j'imagine qu'il y aura une discussion avec Joseph Gourlian, Jean-Louis, Benjamin, etc. Et là, ça sera la responsabilité de Benjamin, de Jean-Louis, de trouver le bon équilibre entre les finances à gérer, un effectif pour gérer la Ligue des Champions et la Ligue 1, tout en sachant qu'on ne rejouera pas le top 3, parce qu'il faut être réaliste sur nos moyens. Voilà, c'est tout l'ambition et tout l'enjeu à mettre en place. Après, concernant Pierre Sage, il me semble qu'il avait dit sur Téléfoot qu'il allait quand même rester l'année prochaine. Alors peut-être que j'ai pas suivi, mais en tout cas, s'il reste, alors ça, s'il ne reste pas, ça serait pour le coup une vraie catastrophe pour Lens. Oui.
Merci beaucoup Mohamed d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. On rappelle que la saison où Lens donc a joué la Ligue des Champions, ils avaient terminé l'exercice à la 7e place de la Ligue 1. Dans quelques instants, on va parler de ce qui se passe à l'étranger. Une information à RMC Sport, Xabi Alonso et Chelsea. Et oui, a priori, c'est le duo qui va être composé pour la saison prochaine. On parlera également de la victoire de Manchester City en Cup. Et puis nous partirons en Espagne avec des au revoir Griezmann, sa dernière à domicile, et Lewandowski qui va quitter le Barça. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Karine Galli. 23h37, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit avec Walid Acherchour, avec Maxime Chano. Messieurs, quelques informations pêle-mêle sur la Ligue 1. L'officialisation du départ de Mehdi Benassia par le club, on le savait, mais ça a été officialisé aujourd'hui. Un petit mot également sur le groupe de l'AS Monaco qui joue à Strasbourg, sans d'ailleurs sans Pogba, sans Golovin. Et Pocognoli qui a été un petit peu surpris qu'on lui demande son avenir, parce que vous savez que ce n'est pas assuré qu'il reste sur le banc monégasque la saison prochaine, mais lui, il veut absolument rester.
Oui. Non, mais... Et après, il a eu une très très bonne période. Le problème, c'est que Monaco est retombé dans ses travers. Moi, j'ai envie de revoir Pocognoli.
Voilà. En tout cas, voilà. Il a été un petit peu surpris.
Ça reste décevant au global, parce que moi, je le voyais vraiment sur le sprint final, je les voyais fort. Mais avec une vraie prépa, avec un recrutement qui peut être un peu plus adapté à son système, pourquoi pas?
On verra effectivement la décision de l'AS Monaco et surtout le classement final. Messieurs, donc on part en Angleterre, c'est une information RMC Sport. Chelsea a choisi Xabi Alonso, Fabrice Hawkins nous a appris cette nouvelle. On parle d'un contrat de 4 ans et il devrait avoir un rôle actif dans le mercato. On rappelle qu'il était libre depuis son licenciement en janvier dernier. Et est-ce que vous êtes déçu qu'il aille à Chelsea? Moi je peux pas, non. Pourquoi tu prends pas la route pour Liverpool alors que Slot est en danger?
Non, parce qu'Arne Slot est conforté et qu'Arne Slot va continuer l'année prochaine.
Mais ça, on ne sait vrai que... pas.
Ah oui, si,
moi, j'en peux plus de ces joueurs mythiques qui vont dans les mauvais clubs.
Oui, mais le
gros
problème, Karine, c'est que si Xabi Alonso va à Chelsea, il n'est pas con, Xabi Alonso. C'est qu'il y a un moment, ils savent très très bien que dans le jeu de chaise musicale, qu'il n'y a pas énormément de place et que Liverpool va garder Arne Slot. En tout cas, moi, je n'ose pas imaginer un Xabi Alonso qui prend directement un poste en sachant.
En ne prenant pas
la température de ce qui se passe à Liverpool. Ouais, le mec était quand même une légende de Liverpool. Il a des joueurs qui sont à Liverpool, enfin des joueurs qui étaient au Bayer Leverkusen avec qui il a joué, des agents qu'il connaît. S'il y va, c'est que.
Attends.
Ah oui, bah, pourquoi pas. Après, pour le coup, moi je suis comme toi, hein, je suis surpris. Pour moi, le featuring Xabi Alonso au Chelsea, à moi, ça ne s'imposait pas. En tout cas, tout à l'heure, je parlais de surprise pour Thomasson à Rennes. Je suis encore plus surpris pour Xabi Alonso parce qu'avec les arguments, les très bons arguments de Maxime, qui nous a parlé de Franquès, de certains joueurs, au final, tu travailles un petit peu le dossier, tu te dis, bon, Thomasson, c'est pas non plus dingue. Mais Xabi Alonso à Chelsea, hormis le fait que oui, il n'y a pas d'énormes places et que les places sont chères aujourd'hui. Tu vois, un mec comme Xavi, par exemple, qui était au Barça il y a 2-3 ans, n'a pas retrouvé de poste, que De Zerbi, là,
est pas. Oui, mais sauf que Xavi n'a jamais vraiment réussi.
Il a gagné une Liga, excuse-moi.
Sauf que le Real était un petit peu en miettes parce qu'il y a eu les départs des vieux Richard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Xabi Alonso qui réussisse à faire gagner le Bayer Leverkusen, à les amener en finale de Ligue Europa, ça a été une immense surprise.
Oui, d'accord. Karine, excuse-moi, mais oui, bien évidemment que ce qu'a fait Xabi Alonso, c'est monstrueux, invaincu jusqu'au dernier match contre l'Atalanta, Europa League, etc. Sauf que là, il sort d'un échec.
Oui.
Et que la réalité, c'est qu'il
a coupé les pattes.
Bien évidemment,
qui a entaché un petit peu son image.
Un échec. C'est pas moi que tu vas le dire. Et bien évidemment que pour moi, le responsable, c'est Florentino Pérez et les joueurs. Mais il a aussi fait des erreurs. Et je pense que dans le milieu, s'il se retrouve à Chelsea, c'est qu'il y a aussi une raison. Et parce que son image a été égratignée, que tu le veuilles ou non, c'est plus le Xabi Alonso qui avait la hype du Bayer Leverkusen quand il sort. Parce que tu le sais très bien, Karine, il y a entraîné dans un club pas moyen, je vais pas dire moyen, mais dans un club.
Oui, c'est moyen, le Bayern.
Pas dans un grand club, avec des joueurs à ta main, et d'aller au Real Madrid, à Chelsea, dans des contextes très compliqués. On a bien vu, que le Real Madrid, il pouvait essorer les coachs. Chelsea, c'est la même chose. Et c'est là où moi, je suis étonné, que, après un contexte très compliqué au Real Madrid, il va peut-être dans le deuxième club et dans le deuxième groupe le plus compliqué à gérer. C'est-à-dire que, Blouko, Strasbourg, Chelsea, tout ce qui s'est passé sur ces derniers mois, là, moi, je trouve que le choix, il est quand même très 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 surprenant pour un coach qui veut retrouver de la stabilité, qui veut avoir le projet à sa main. Alors le défi, il est immense, hein. Le défi, il y a de l'oseille, c'est la première ligue, ils n'ont pas gagné de première ligue depuis 2015. Voilà, c'est énorme. Mais
il peut être viré dans deux mois.
Il y a énormément de similitudes avec le Real Madrid, hein. Il va arriver avec un effectif qui ressemble plus à un panier de crabe vraiment qu'un effectif qui est sain, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu avec Xabi Alonso, hein. C'est vrai qu'on remet dans le contexte un petit peu par rapport à ce qui s'est passé à Leverkusen. Faut pas oublier que quand il arrive en Allemagne, je pense que Leverkusen est 17e de Bundesliga, il arrive à les sauver, et puis derrière on connaît un petit peu la dynamique, où est-ce qu'ils ont pas perdu de match pendant énormément, justement une longue série les emmenant même juste en finale de l'Europa League. Moi je suis un peu surpris de le voir de le voir accepter ce poste-là. Maintenant, le fait est que, et Walid l'a très justement dit, et je pense que c'est uniquement la raison, c'est qu'il n'y a pas énormément de place. Il n'y a pas énormément de place qui se libère. Le jeu des chaises musicales actuelles au niveau des entraîneurs, il n'y a pas beaucoup de postes qui sont libres. Maintenant, je vois quand même des bonnes choses côté Xabi Alonso. C'est vrai que c'est un joueur qui arrive à faire évoluer ses joueurs. Je pense notamment, par exemple, ce qu'il a fait avec Wirtz et Frimpong, tu vois, ou Leverkusen. J'arrive à me dire que ça peut être un peu la même chose à Chelsea avec un joueur Pedro, tu vois, pareil, il risque de redonner un petit peu goût au football.
Il y a de la matière. Hein.
Ça, vu le nombre de joueurs qu'il y a.
Au niveau de l'effectif, je pense qu'il pourrait faire quelque chose. On connaît un peu le joueur, et enfin l'entraîneur, pardon, et on sait qu'il a tendance à pouvoir faire évoluer ses joueurs. C'est un entraîneur qui connaît très bien la Première Ligue. On l'a dit, c'est une légende avec Liverpool, donc effectivement, ça va gagner du temps par rapport à son adaptation. Après, la vraie réalité, c'est de savoir combien de temps Chelsea va lui laisser, et ça, c'est toujours la problématique de ce club qui est quand même archi instable. Et c'est vrai que quand tu compares actuellement les deux effectifs entre le Real Madrid et Chelsea, je pense que c'est les deux pires clubs pour lesquels l'entraîneur peut entraîner. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que ça peut être un bon mix. Maintenant, il faut absolument qu'il arrive à avoir la main sur l'exécutif. Et ça, avec Chelsea, on sait qu'il y a 6 directeurs sportifs hein, quand même. Hein. C'est un vrai bordel, excuse-moi du terme, là-bas. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je reste confiant. Je pense que ça peut être un bon mix. Et je réitère mon propos à condition, évidemment, qu'on lui laisse du temps.
Chelsea qui était aujourd'hui, évidemment, engagé pour remporter une cup. Mais c'est Manchester City qui s'est imposé 1-0 face aux Blues. Et c'est Meignan qui a marqué l'unique but de la rencontre. Côté français, on avait deux titulaires, c'est Fofana et Gusto. Et Cherki, lui, est rentré seulement à la poste pour City. Deuxième titre quand même pour la saison de Guardiola, après la League Cup. Et potentiellement, il y a le titre de Première Ligue aussi qui peut être encore gagné par les Citizens. Messieurs, sur cette finale, une nouvelle fois, Ryan Cherki qui n'est pas titulaire pour un match très important, parce qu'il y avait quand même un titre. Et c'est vrai que son entrée en jeu, ça n'a pas été la meilleure.
Oui, ça n'a pas été la meilleure. Après, il s'est procuré une grosse situation avec une grosse frappe, mais là c'est vrai que cette semaine il a été remplaçant contre Crystal Palace avec le retour de Phil Foden qui a fait un super match. Il est rentré, il a fait une passe décisive, et là il démarre encore sur le banc. Bon, il a quand même beaucoup joué hein, ces derniers temps, Ryan Cherki. Il a eu un très très gros je vais pas dire contre-coup physique, mais je trouve qu'il y a eu certains matchs, notamment juste avant Crystal Palace, où il a été un peu moins bien, Everton. Même le match contre Burnley n'avait pas été grandiose. Il fait aussi tourner son effectif sur la fin de saison. Il y a des échéances encore importantes avec deux matchs très importants contre Aston Villa et contre Bournemouth. Mais City n'a pas eu besoin de lui, en tout cas ce soir, pour aller gagner ce deuxième titre, avec un Semenyo qui a mis un but incroyable, et avec une équipe de City qui aurait pu aussi se faire piéger par Chelsea, mais qui a encore montré de la maturité. Et puis il y a eu 2-3 décisions arbitrales qui est dans leur sens aujourd'hui. Mais Cherki n'a pas été titulaire ce soir.
City qui remporte sa 8e Cup de son histoire et qui avait perdu les finales 2024 et 2025. Dans quelques instants, on sera avec Edgar Grollo, il nous attend. Il est déjà là. On parlera de l'Espagne et des dernières de Griezmann et de Lewandowski. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Karine Galli. 23h46, on est ensemble sur RMC avec Walid Acharchour et Maxime Chano. Walid, dis-nous la question que tu viens de poser à Maxime juste avant la fin de la pub, ouais. S'il te plaît.
Je me posais la question, parce qu'on parlait un peu des N2. Kevin Diaz qui a perdu aujourd'hui.
Et bravo à Cannes, si on pense à Didier Roustan
Je me remets pas.
Et on saluait Kevin Diaz, et je posais la question à Maxime. Avec une grosse prépa, un mois ou deux, où est-ce qu'il peut jouer encore?
Même moins qu'un mois.
Ouais. Il me disait en Ligue 2 tous les jours.
Mais tous les jours.
Et ça t'a fait rire.
Ouais, ça t'a fait
rire. Non, j'y crois pas.
C'est que j'ai vu beaucoup d'assurance dans ton propos.
Non, parce que j'en suis convaincu. J'ai joué.
Voilà, d'accord.
J'ai beaucoup de respect pour la Ligue 2.
Mais qu'est-ce que tu fous là alors?
C'est la question que je me pose. Parce qu'a priori, tu gagnerais plus en Ligue 2.
C'est la deuxième question que je me pose.
Parce que deux ménisques.
Ah ouais, d'accord. Donc tu peux pas alors.
Écoute, si je fais une bonne petite opération derrière.
D'accord, parce que moi, pour moi, quand je dis jouer, c'est que tu fais 25 matchs, saison pleine, dit à la fin, ouais, il a fait sa saison.
Oui, tu fais pas GO du club.
Non, exactement. Je peux faire 7-8 matchs.
Ouais, 7-8 matchs.
Ah oui, d'accord.
Ok.
Bah, écoutez, en tout cas, bravo à Cannes, et je salue Sherendoy, l'ancien Angevin notamment.
Et Odonien aussi, Red Star.
Alors, je ne le connais pas personnellement.
Ah oui?
Non, Sherendoy, je le connais personnellement, pas Odonian, mais on peut le
citer. Non, Odonian, Odonian.
Oui, Odonian, je le connais pas personnellement.
Odonian, c'est quand tu joues au Red Star, t'es un Odonian. Thierry, tu nous fais une grosse émission encore. C'est extraordinaire, tu nous fais un super samedi.
Je connais pas personnellement.
Je connais pas Odonian.
Bah, ça aurait pu être un nom de joueur.
C'est un Marseillais.
Oui, non, mais très bien, ok. Mais sauf que vu que j'ai donné un nom de joueur, Sherendoy, j'ai cru que tu enchaînais sur un autre joueur.
Non, non, je dis c'est aussi un Odonian.
D'accord. Un ancien de Créteil.
Un ancien de Créteil,
voilà. Et d'Angers aussi.
C'est Sébastien Corchia qui est aussi à Cannes.
Oui, d'accord. Et que je ne connais pas non plus personnellement, mais je connais sa carrière. Ouais, voilà. Mais on le salue aussi.
Et on salue aussi
toute l'équipe.
Jamal Mohamed, qui est le directeur sportif de Cannes. Je crois
que tu connais personnellement.
Ouais, que je connais personnellement.
Très bien.
Et qui à chaque fois a fait monter ses équipes. Martigues, Consola. Et là, il a ramené Monsieur Chabert, je crois.
Oui, Monsieur Chabert.
Monsieur Chabert,
qui fait du beau boulot.
Qui lui aussi, dans ces divisions-là, à chaque fois, fait monter
ses équipes. Ses équipes. Il a fallu maintenir, quoi.
Voilà. Alors, en Ligue 2, après, c'est un peu plus compliqué.
En tout cas, il a fait du bon boulot.
Ils sont montés.
Donc bravo à Cannes, effectivement, qui jouait à la maison.
Et à Odonian.
Mais ça aurait pu. Écoute, tu m'enchaînes un Sherendoy avec les Odoniens. J'étais pas préparé, tu vois.
En tout cas, 8 matchs de Ligue 2.
8 matchs de Ligue 2, tu les fais.
D'accord. Voilà. Okay. Et ben, on va proposer tes services à certains clubs.
On va proposer ce challenge.
Voilà. On est en Espagne. On va monter de quelques niveaux quand même. On accueille Edgar Grolo. Salut, Edgar.
Salut tout le monde. Bon, chez nous, c'est facile. Madrilène. Voilà.
Non, je sais que c'est pas un joueur. Arrêtez de me charrier, ça aurait pu être un joueur, bon sang. Je connais le terme. C'est un Odonien, mais il y a des joueurs qui peuvent s'appeler.
C'est vrai.
Parlons des au revoir, parce que c'est l'heure des au revoir en cette fin de saison. Lewandowski a dit qu'il allait quitter le FC Barcelone, et puis on le savait aussi. Grisou, évidemment, il part en MLS, donc ça va être sa dernière à domicile demain. Tu veux commencer par quel adieu? Quels au revoir?
Bon, je sais que souvent dans l'after, il y a un petit faible pour Antoine Griezmann, donc on peut peut-être commencer par Antoine Griezmann.
Okay, moi je suis fan de Lewandowski, mais c'est toi le boss.
Évidemment, non, mais on va avoir le temps aussi de parler de Lewandowski, qui a eu un passage incroyable à Barcelone, et Antoine Griezmann qui dispute, c'est assez incroyable parce que le hasard fait que sa dernière à domicile, donc face à Gérone, c'est sa 500e partie avec l'Atlético. Donc 500e match avec l'Atlético pour sa dernière à domicile. Le club a annoncé qu'il allait avoir des hommages avant, pendant, après le match, surtout après le match évidemment, où il y aura toute une cérémonie pour Antoine Griezmann aux alentours de 21h. J'imagine qu'il va s'exprimer devant tout le stade, j'imagine aussi qu'il y aura sa famille. En tout cas, ça va être très très beau, et Griezmann qui va partir en étant le meilleur buteur de l'histoire du club, le joueur étranger avec le plus de matchs dans l'histoire de la Liga devant Lionel Messi. Donc c'est un sacré bonhomme, un sacré personnage. Voilà, il y a évidemment cette petite pointe de déception par rapport à son histoire et par rapport, on l'a déjà répété ces derniers mois, mais à un manque de grands titres et notamment la frustration de la Ligue des Champions et de la Liga. Mais en tout cas, c'est une très belle page de l'Atlético qui va se tourner.
Bien courage à lui, hein, parce que ce qui va l'attendre en MLS, le pauvre, je pense qu'il n'est pas prêt. On avait parlé un petit peu il y a quelques semaines quand m'a demandé qu'est-ce que je pensais de son choix d'aller à Orlando. Non, mais c'est surtout, je suis la saison d'Orlando. Je suis la saison d'Orlando et je peux te dire que c'est quand même pas fameux cette saison.
Après, ça va, hein, il va pas.
Non, mais
quand
tu prends des raclés chaque match.
Non, mais il va pas en Bulgarie, quoi.
Non, bah alors, on est d'accord.
On aime beaucoup la Bulgarie.
Oui, bien évidemment, mais quand, enfin.
En football, je parle de Universal Studio et Disneyland, il va s'amuser.
Oui, bien évidemment.
Ça risque de ressembler un peu plus à Disney qu'à l'Atlético Madrid.
Oui, après, ça va, ça fait 15 ans qu'il a donné au football européen. Il peut aller.
Il aurait pu aller dans un meilleur franchise,
même. Oui, il a plus qu'il a joué.
Mais il n'y aurait pas eu Disney World.
Ouais. C'est vrai,
il faut savoir.
Oui, en effet, ils vont s'amuser.
On rappelle que c'est demain 19h.
Personnellement, j'en ai rien à cirer de ce qui va se passer en MLS pour Griezmann.
Oui,
pour moi, c'est terminé. C'est-à-dire que merci beaucoup. Oui, bien évidemment, mais
je sais
que
tu es un grand fan quand même. Parce que j'ai un lien avec cette ligue.
Bien évidemment, tu vas suivre, mais je pense que pour le commander, les gens qui ont suivi Antoine Griezmann pendant 15 ans, ça va s'arrêter. Voilà,
c'est sûr, mais j'ai connu des joueurs qui ont brillé en Europe, et c'est vrai que quand tu arrives dans une franchise aux États-Unis où est-ce que ça met pas un pied devant l'autre, ça peut être très très compliqué comme fin de carrière. C'est ça que je voulais dire. Et notamment Blaise Matuidi, je pense à lui. C'est vrai qu'il est arrivé à l'Inter Miami dans un club qui n'était pas du tout structuré avant que tout soit mis en place, et je sais qu'il a un petit peu souffert de l'expérience. Donc j'espère que ça va pas être le cas pour Antoine Griezmann.
Bon, demain, en tout cas, ce sont les adieux à domicile. Donc, l'Atlético de Madrid qui reçoit Gérone 19h. Le coup d'envoi
Gérone,
du match.
Gérone, c'est un match très important parce qu'ils jouent leur maintien.
15e, actuellement.
Ouais. Bah, le maintien, d'ailleurs, c'est absolument incroyable. Bah, la Liga, coupe, on parlait. lundi aussi dans les drôles de dames, mais je regarde le classement. Le 19e, Levante à 39 points. Le 13e, Osasuna à 42 points. Donc 3 points d'écart entre le 13e et le 19e. Et je crois que c'était avant la journée d'avant, c'est-à-dire avant la journée qu'il y a eu en pleine semaine. T'avais que les 6 premiers du championnat qui étaient officiellement maintenus à 3-4 journées de la fin. Donc scénario absolument dingue. Et alors je sais pas si c'est une année très relevée, mais en tout cas c'est une année extrêmement serrée où on a du spectacle jusqu'à la fin et des enjeux sur quasiment tous les matchs.
On va parler d'un homme qui s'en va, c'est lui qui l'a annoncé, c'est effectivement Robert Lewandowski. Il a 37 ans, 4 saisons au FC Barcelone, 119 buts en 191 matchs et surtout un palmarès qui s'est étoffé également au Barça. Ah tu nous le rappelles ?
Oui, 3 Ligas en 4 ans notamment, la Coupe du Roi aussi la saison dernière, sachant que quand il arrive, le club, il arrive en 2022, le club n'avait plus gagné la Liga depuis 2019 et surtout c'était pas le Barça j'ai envie de dire sexy d'aujourd'hui, c'était un Barça qui était en reconstruction, c'était un Barça qui avait où on avait énormément de doutes autour de ce club, autour de cette équipe par rapport à ses problèmes financiers aussi, et je pense que Robert Lewandowski quand on se souvient du statut qu'il avait à l'époque, même si ça reste un club pour sa fin de carrière et qu'on n'aura jamais vu le meilleur Lewandowski sous le maillot du Barça, même si on a vu un exceptionnel Lewandowski, c'était un vrai choix de sa part, un vrai risque aussi, un vrai kiff aussi je pense pour lui d'aller au Barça, et il a eu raison. Et j'ai envie de citer ce qu'il a dit dans sa lettre d'adieu. Il dit: le Barça est de retour là où il doit être, c'est-à-dire un club compétitif qui essaie de gagner tous les titres, et je pense que ça a vraiment été une recrue très très importante pour le Barça dans sa reconstruction, et un vrai nom qui a pu donner aussi confiance aux supporters et aux autres, parce que tu recrutais Lewandowski à ce moment-là, t'avais des certitudes et c'était pas gagné vu la situation économique du club en 2022.
Et il y aura eu une demi-finale en 2025 éliminée par l'Inter, mais on rappelle qu'il avait raté le match parce qu'il était blessé et au retour il était vraiment rentré dans les dernières minutes pour la prolongation, donc malheureusement il n'avait pas pu vraiment aider ses coéquipiers. Et je suis fan absolu de Robert,
Je regardais juste la liste des buteurs historiques du Barça et il se trouve qu'il a un seul but de rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça.
Très bien. Je suis fan, moi, de Robert, mais j'avais une question, messieurs, parce que j'ai vu le tweet d'Elton Mokolo, notre camarade de RMC, de l'Afterfoot. Il a mis légende. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une légende du Barça ou c'est trop par rapport à l'histoire incroyable du Barça et par rapport à tous les immenses joueurs qui ont joué pour ce club ?
Moi, déjà, je vais faire confiance à Elton parce que c'est un très grand spécialiste de ce club. Il supporte ce club depuis sa tendre enfance. Moi, j'ai pas le recul nécessaire. La légende, combien on en met ? La table, il y a combien de chaises ? Combien de chaises sur la table, c'est ça qui est très très importante, et j'ai pas réfléchi à cette question. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Lewandowski a impacté son époque au Barça, parce qu'il est arrivé à un moment où moi j'étais très surpris de voir Lewandowski au Barça, parce qu'il était au Bayern Munich, cette équipe-là, elle était venue d'infliger 8-2 au Barça en quart de finale de Ligue des Champions. Le Bayern était beaucoup plus proche de gagner la Ligue des Champions que le Barça, et il est venu à un moment où juste avant ça jouait avec Aubameyang, Adama Traoré ou le mauvais Ousmane Dembélé. Il y avait très peu de ressources financières, et il a quand même gagné derrière des trois, ça sera sa troisième Liga, il me semble, Edgar, ou j'en oublie
trois Ligas, ouais.
2023, 2025, en étant, 2026,
en étant
trois Ligas en 4 saisons,
voilà, en étant un élément prépondérant à un âge, il avait pas 22 ans, 23 ans, donc il a remis de la crédibilité du côté du Barça, offensivement notamment, et on l'oublie parce que le Barça a connu un post Messi catastrophique qui était très très compliqué, et Lewandowski sera le visage du retour du Barça au premier plan, en tout cas en Liga. Donc je peux comprendre que pour un Barcelonais, en tout cas pour un sympathisant barcelonais comme Elton, ce soit un joueur qui compte, en tout cas même sentimentalement, par rapport à un retour au premier plan.
Oui, vu la période. Maxime, il est plus jeune que toi ou vous avez le même âge? T'as quel âge?
Quel âge tu me donnes?
Non, on est pressé là. On
j'ai 36 ans. Ouais.
Ah, donc Lewandowski
pourrait jouer en Ligue 2. Ça, y a aucun doute.
Et il joue encore au FC Barcelone. Tu vois, la Ligue 2, finalement, c'est pas assez.
C'est pour ça que je te dis que je peux jouer tous les jours. Voilà, Walid Al-CV, j'ai 36 ans, messieurs, dames, écoutez-moi, ouais. Je suis prêt.
Et pour Lewandowski et pour Robert?
Bah écoute, visiblement, il est plus en forme que moi. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté ma carrière, c'est parce que j'arrivais plus à courir. Donc, non, cool. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour ces joueurs à cet âge-là qui arrivent à garder une forme physique comme celle-ci. Après, on l'a souvent su, hein, il a quand même une, une notoriété par rapport à son style de vie. Et je pense que c'est ce qui lui permet justement d'avoir cette longévité dans le football professionnel. Respect à lui, encore une fois, je fais le parallèle avec mon expérience et ma vie de footballeur. Moi, je suis très très heureux, en tout cas pour ce Barcelone, de revenir au top niveau. On l'a très justement dit, hein. C'est vrai que l'après Messi a été très très compliqué.
Ça va être l'après Lewandowski.
Et je pense que Lewandowski. Je pense que Lewandowski, en tout cas, a une grosse part de responsabilité dans le renouveau du FC Barcelone.
Juste en un mot,
119 buts de ses 33 à ses 37 ans avec le Barça.
C'est magnifique.
Donc le gars arrive en fin de carrière, entre guillemets, et il a des statistiques énormes.
Robert, magnifique. Juste en un mot, oui ou non, il est considéré comme une légende au Barça? T'as plutôt l'impression que oui ou que non?
Je pense que quand même, en fait, ça, c'est comme a dit Walid, ça dépend ce que t'appelles une légende. Évidemment, il est pas dans les premiers noms auxquels tu vas penser, même dans les 10, même dans les 15. Donc, c'est compliqué de.
Non, c'est un top pour moi, 50, c'est compliqué quoi. D'utiliser.
Non, mais voilà, c'est un joueur marquant de l'histoire du Barça, ça c'est sûr. Et dans l'histoire récente, un joueur extrêmement important et en tout cas qui aura été super performant. Et après, si on élargit au-delà du Barça, évidemment, pour moi, légende du foot est très très grand joueur.
Ah oui, on lui a volé un ballon d'or. Robert, on va te le rendre.
Oui, il aurait pu même en rêver de deux ballons d'or, pourquoi pas. Et c'est en tout cas l'un des meilleurs attaquants du 21e siècle, ça, il n'y a aucun doute.
Ah bah oui, non, mais ballon d'or 2020, il est à lui.
Derrière Benzema, je reste quand même. Dans mon livre.
Mais pas pour l'histoire du ballon d'or.
Non, je parle de. Non, mais parce qu'on parlait des numéros 9 du 21e siècle, enfin pas du 21e siècle, mais de la décennie 2010-2025.
Okay.
C'est un monstre, mais je préférais Suarez et Benzema.
Robert, on t'aime. Merci beaucoup, Edgar, d'avoir été avec nous. Merci, Walid. Merci, Maxime. Merci à Kylian et à Daniel qui est aux manettes de l'émission. Belle nuit à tous sur RMC.
RMC, l'after foot.